deux jours d'exception au rythme du jazz à Kinshasa, les 31 mai et 1er juin au Théâtre de Verdure avec la 8e édition du festival Jazz Kiff. À cette occasion, nous célébrerons tous ensemble les 20 ans de carrière de Lokua Kanza et fêterons le jazz avec aussi Richard Bonnat, Jean Goubal, Sarah Tavares et bien d'autres. Des concerts à retrouver prochainement sur Radio Capi. Pour toute réservation de billets à ce festival, appelez le 081 059 98 88 ou allez sur www.jazzkiff.com.
Qu'est dit la loi congolaise sur les cas de meurtre? Vous savez, ces cas peuvent, sont parfois signalés à travers le pays. Il arrive parfois que l'auteur soit appréhendé et traduit en justice. Dans bien d'autres cas, le meurtrier arrive à s'enfuir. Alors, qu'est dit la loi congolaise en cas de meurtre? Maître Kabengela Ilunga est notre invité. Ce matin, il est avocat au barreau de Matete. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, la première question, maître, comment la loi définit le meurtre?
Le meurtre, c'est le fait de donner la mort à un individu. Mais pour être beaucoup plus explicite, nous devons d'abord dire que le meurtre rentre dans la catégorie d'homicide. Et lorsque vous considérez l'expression homicide, vous avez homicide volontaire qui est appelé meurtre. Il y a l'homicide avec préméditation qui est appelé assassinat. Il y a l'homicide par imprudence qui est appelé homicide involontaire ou préterintentionnel. Et à chaque qualification, le législateur prévoit des sanctions appropriées. Pour ce qui est de meurtre et assassinat, les articles 44 et 45 du Code pénal, livre 2, punissent le meurtre et l'assassinat de peine de mort. Alors que pour l'homicide préterintentionnel ou homicide par imprudence, les peines varient de 3 mois à 2 ans de servitude pénale et une amende de 50 à 1000 francs congolais, les deux peines étant cumulatives.
Alors, à quel endroit se situe la différence entre l'homicide volontaire et prémédité? Est-ce que ce n'est pas la même chose?
L'homicide involontaire, c'est...
Non, je parle de volontaire.
Volontaire.
Et la préméditation.
L'homicide volontaire, l'individu réfléchit pour donner la mort. Il donne des coups avec volonté de causer la mort à un individu. Donc, cela peut être considéré en fonction de l'objet utilisé, des coups qu'il fait encaisser à son vis-à-vis. Alors que pour l'assassinat, il y a un élément important, c'est la préméditation. Une préméditation qui peut prendre 24 heures avant ou 48 heures ou bien plus. Cela peut ressortir de méthodes telles que le guet-apens, quand vous attendez votre victime dans un coin, sachant très bien qu'il va...
Le soir, vous savez qu'il va souvent prendre son verre
quelque part. Vous l'attendez là-bas avec l'intention de lui donner la mort. Alors, le juge examine cette préméditation pour qualifier le meurtre d'assassinat. Alors, permettez que nous disions un mot sur l'homicide préterintentionnel ou l'homicide par imprudence. C'est et le coup que la victime reçoit et la mort qui s'ensuit ne sont jamais l'œuvre de la volonté de l'agresseur. Il est souvent possible qu'un individu qui roule et par inattention, par imprudence, ramasse un passant.
Un passant, oui.
Et puis la mort s'ensuit. Et là, il s'agit non pas de meurtre ou d'assassinat, il s'agit de l'homicide préterintentionnel, punissable de 3 mois à 2 ans et d'une amende.
Voilà, des questions et préoccupations, appelez-nous 081-890-6394. Alors, comment arriver, le juge peut arriver à cristalliser cette infraction, arriver à prouver que la personne avait réellement l'intention de tuer?
Bon, ça, c'est de l'analyse de beaucoup d'éléments dans le dossier. Il est certes vrai qu'il est difficile de dire d'emblée que telle personne est l'auteur de meurtre ou d'assassinat, mais alors, comme en droit pénal, le juge est tellement souverain dans l'appréciation d'éléments de preuve que les parties lui présentent et que même le ministère public lui présente. Il devra considérer les temps du meurtre, la position de l'auteur présumé de l'infraction, les instruments qu'il aura utilisés, les témoins et les traces que laisse l'infraction sur le corps de la victime. Et ici également, il est toujours très important que les analyses médicales soient effectuées pour déterminer effectivement la cause de la mort. Il peut arriver qu'après ces examens-là, la mort de l'individu ne soit pas directement liée au coup reçu. Alors, en ce moment-là, c'est l'appréciation souveraine du juge. Le principe de la cristallisation de faits impose au juge de considérer la position d'abord de la victime, la position de l'agresseur présumé, pour se faire une idée. Nos juges congolais ont eu déjà à examiner un cas pareil où il était dit que telle personne avait comploté dans l'assassinat de l'autre, mais examinant maintenant l'emploi du temps de la personne présumée auteur de meurtre, trouve que son emploi du temps du jour de meurtre ne pouvait pas faire qu'il soit sur le lieu du meurtre. Et voilà pourquoi ce juge-là avait acquitté le monsieur. Donc, je dis Daniel, il reste aujourd'hui à qui que le juge pénal doit se montrer beaucoup plus attentif à l'analyse d'éléments de preuve lorsqu'il s'agit d'examiner les cas de meurtre. Parce que quand quelqu'un décède même du coup, qu'est-ce qu'il va dire au juge que le coup-là, il les a reçus de tel monsieur et non de tel autre? Et là, c'est là où le témoignage maintenant vient comme moyen de preuve en droit pénal pour dire nous avons vu tel monsieur administrer du coup à tel monsieur Y.
Et qui porte plainte dans ces cas-là? Par exemple, il y a un meurtre et puis voilà, qui doit porter, qui a qualité?
Tout le monde peut porter plainte, mais ça dépend. Quand c'est un tiers qui a assisté, on appelle dénonciation. Si c'est parmi les victimes, membres de la famille, ils peuvent porter plainte à l'instance concernée. Mais si l'infraction venait de se commettre, tout individu peut appréhender l'auteur présumé de la forfaiture et le transférer devant l'autorité judiciaire compétente.
Et pourquoi généralement quand il y a un meurtre dans un quartier, la police arrive, on a toujours tendance à arrêter tous les même les voisins, tous ceux qui habitent tout autour là?
Oui, parce que en ce moment-là, il est difficile de dire avec précision que telle personne seule a commis des coups qui ont occasionné la mort. Oui. C'est après sélection, après audition, que l'on va commencer à éliminer les personnes qui ne peuvent pas être directement liées à la commission du meurtre.
Voilà, Doudou Kadima nous appelle de Mbujimaï, Elodie est à Guémena, Rachel Njunju nous appelle d'Issirou, et on parle par exemple du cas d'un cambiste tué dernièrement à Bandalungwa, des hommes armés qui arrivent, peut-être qui voulaient prendre son argent et ils résistent, et voilà, on tire. Est-ce qu'on peut parler d'un meurtre où c'était prémédité, volontaire ou c'est involontaire?
Ça c'est un meurtre qui est une infraction rentrant dans le chemin de se faire remettre des sommes d'argent. Et donc, c'est un meurtre, il n'y a pas préméditation, c'est parce que le cambiste a résisté et qu'il y a eu ce coup-là. Alors, le juge va examiner maintenant le coup qui a été tiré. Quand vous tuez quelqu'un à coup de fusil, vous ne pouvez pas dire que c'était tout simplement pour le blesser. Donc, le coup, la cour... La juridiction militaire a déjà prétenu et de manière permanente que lorsqu'on tire à coup de fusil, on a l'intention unilatérale de donner la mort.
Bien, que dit la loi congolaise en cas de meurtre? Maître Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Matete, notre invité, nous allons accueillir les auditeurs dans quelques instants.
Pour ses 20 ans de carrière, la star internationale Lokua Kanza est l'invité de l'émission Découverte sur Radio Okapi. Rendez-vous sur la fréquence de la paix pour écouter Lokua Kanza évoquer son expérience, les temps forts de sa carrière, ses conseils à la génération montante. En compagnie de Karine Galimbaya et Kaki Akiewa, à partir de 14h10, heure de Kinshasa, ce mardi 27 mai 2014, sur Radio Okapi, découvrez l'œuvre artistique et la vie de Lokua Kanza. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi.
Qu'est dit la loi congolaise à propos du meurtre? Doudou Kadima, vous êtes à Mbujimayi, bonjour. Doudou Kadima, bonjour. Il n'est plus en ligne. Elodie, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour, Jody. Bon début de la semaine.
Merci.
Bonjour aussi à maître aussi. Merci. Je parle d'une expérience que nous avons vécue pour que les maîtres m'éclaircissent aussi. Il y a de notre, du côté de notre prison, il y a un jeune homme qui avait un problème avec un certain monsieur. Alors, ils se sont retrouvés dans la source, dans la rivière, pour se baigner. Ils se sont battus. Alors, le monsieur, comme il avait tapé ce jeune homme, il est revenu appeler ses membres de famille. Lorsqu'il est venu appeler ses membres de famille, son grand frère qui était un taximen est juste arrivé comme ça. Il a reçu un coup à partir d'un arbre, d'un morceau d'arbre chez le monsieur qui s'est battu avec son jeune frère. Et il est mort là, sur place. Son père a appris ça, lui aussi, a quitté son lieu de travail, est venu sur le lieu où son fils est mort, a abattu aussi le monsieur qui a tapé son fils, qui a abattu aussi son fils. Alors, ils étaient tous deux morts. Et le papa là aussi, il y a échange, les membres des familles se sont battus, il y a aussi la femme du monsieur mort qui était aussi blessée. Alors, on a transporté les problèmes au parquet, et en tranchant l'affaire, on condamne le papa qui a tué le monsieur qui a tué son fils. On dit que le fait qu'il a tué ce monsieur-là, il a commis un meurtre. Nous disons, mais j'ai comme l'impression que dans notre règle, le cas de meurtre, on règle ça sur place, c'est sur place. Et donc, il ajoute que c'est tout simplement parce qu'on l'a condamné à 15 ans. Il est à la prison centrale de Guémena. On ajoute que tout simplement parce qu'après avoir tué ce monsieur, à ce même instant-là, il est parti incendier, comme c'était une maison en paille, il est parti incendier la maison du monsieur décédé. Alors, on lui demande d'acheter une parcelle, de construire une maison pour la veuve restée. Et pourtant, son fils aussi était polygame, a laissé aussi 226 enfants. Lui aussi réclame aussi, bon, moi j'ai perdu un jeune garçon diplômé, vous c'était un garçon qui avait une réputation d'être un voleur aussi. Là, il est mort, nos quartiers sont calmes. Maintenant là, on lui demande de construire une maison et puis de compter les enfants du... Lui aussi, moi aussi, mon fils est mort, il a laissé aussi deux femmes. Vous construisez, la famille aussi construit aussi une maison pour les enfants de mon fils et ils supportent aussi mon fils. Alors les juges étaient dans l'embarras, ils n'ont pas encore tranché le problème à ce niveau-là, même parce qu'il avait demandé, il avait interjeté la peine parce qu'on l'avait condamné à 15 ans. Je voulais maintenant avoir un peu un éclaircissement sur ce problème chez le maître.
D'accord. Merci Elodie de Guémena. Rachel, vous êtes à Isiro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute, Rachel.
Oui, j'ai aussi une question par rapport à une histoire que j'ai attendue. Il y avait un chauffeur de taximen qui avait commis l'accident et il avait cogné une personne et cette personne est morte directement sur le champ et le monsieur a pris fuite. Alors, comme là où le monsieur habitait, ils ont décidé d'aller à la maison là où le monsieur est resté, chez eux à la maison. Alors, ils ont trouvé que son petit frère, leur petit frère était. Et le monsieur n'était pas là parce qu'il avait pris fuite directement après l'accident. Et les policiers ont décidé d'arrêter le petit frère, l'amener au cachot, en disant que le petit sera libéré en échange de son frère. Alors, ma question était de savoir, est-ce que c'est possible, si un grand frère a commis un meurtre, de récupérer le petit frère à la place de la grand frère, à la place de grand frère, là, on dit que les Français sont individuels. Est-ce que c'est ma question?
Merci, Rachel. Kalenga, vous êtes à Kalemie, bonjour. Kalenga, vous êtes à Kalemie, bonjour. Il n'est plus là. Bien, Maître Kabengela, vous avez suivi Elodie qui parle de ces deux jeunes hommes qui se sont battus et l'un a tué l'autre réputé voleur. Le papa de ces garçons, le réputé voleur qui a tué l'autre, le papa de l'autre des garçons qui est décédé arrive sur les champs et il tue également celui-là. Il va incendier la maison et l'affaire est amenée au tribunal. Le papa est condamné, il fait 15 ans de prison et il doit reconstruire la maison qu'il avait incendiée.
Bon, nous pensons que, sans connaître le fond de l'affaire examinée par les juges, que les juges ont raison.
De condamner ce papa.
Et je demande à notre compatriote Elodie de me suivre. On sait que on juge les vivants et non les morts. Le papa en question a tué la personne qui avait tué son fils. C'est lui qui avait tué son fils. Étant décédé, le tribunal ne peut plus le juger. Il y a prescription de l'action publique eu égard dû au décès. Alors, de tous ceux qui pouvaient être jugés, il y en avait deux. C'est lui qui avait tué le fils à ce papa-là, ainsi que le papa. Si celui qui avait tué le fils de ce papa était également vivant, il serait condamné à des peines conformément à la loi, mais comme il est décédé, le juge ne peut plus le juger. Il reste maintenant une seule personne à juger sur le papa. Et les juges ont bien fait le travail en disant, voilà, vous avez tué un homme, vous devez réparation. Seulement dans l'appréciation de dommages et intérêts, Sœur Elodie n'a pas dit à quelle hauteur les juges ont fixé les dommages et intérêts. Les juges pourront maintenant tenir compte de l'équité. On sait que ce papa, quand bien même il a tué, il a perdu également quelqu'un de sa famille, et c'est au niveau des dommages et intérêts que l'on pourra maintenant voir, et même au niveau pénal, le juge pouvait tenir compte que ce crime-là de papa qui a tué, c'est un crime passionnel. Et tout ça,
il était sous le coup de l'émotion,
de son enfant qui venait d'être... Voilà. Ouais. Alors, le juge devrait tenir compte de cette circonstance-là pour atténuer la peine. Or, la peine, le meurtre, dans notre pays, n'est puni que des peines de mort. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Bon, souvent, le juge, quand ils arrivent même à condamner quelqu'un à moins de peine de mort, ce n'est pas dans la loi. C'est plein, notre pays est plein de jurisprudences comme ça où quelqu'un qui a tué est puni à moins de peine de mort. Alors que la loi, l'article 44 dit, le meurtre commis avec, l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont tous punis de mort. Donc il n'y a pas minimum, il n'y a pas maximum. Déjà, le fait pour le juge d'avoir retenu la peine de 15 ans, c'est contre la loi. Et bon, ils ont tenu compte de certaines circonstances. Mmh. Or, pour appliquer les circonstances atténuantes, pour atténuer la peine, il faut que le législateur ait laissé le minimum et le maximum en dehors lequel le juge peut apprécier l'application d'une peine. Mais lorsque le législateur vous dit « c'est telle peine », le juge ne peut pas aller en dessous. Alors, tout ça...
Et le monsieur a interjeté appel, Elodie nous l'a dit tout à l'heure.
Okay, bon, s'il interjette appel et que le monsieur public n'est pas non plus en appel, on pourrait revoir à la baisse sa peine. Mais si le monsieur public est en appel, il risque aussi qu'on puisse revoir sa peine à la hausse.
D'accord. Lissenge nous appelle de Fongourmé, jadis Malundama, est à Kinshasa. Avant de répondre aux autres, on va les accueillir rapidement. Lissenge, vous êtes à Fongourmé, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Oui, nous avions un problème ici à Fongourmé. Il y a un motard qui a cogné l'enfant d'autrui. C'est-à-dire l'enfant jusque-là n'est pas encore mort. Il est dans l'hôpital. Maintenant, la famille de l'enfant sont allés attaquer la famille du motard. Maintenant, en attaquant la famille du motard, on a tué un frère du motard. Maintenant, jusque-là, le motard est toujours dans la prison. Or que la famille de la victime avait déjà tué quelqu'un de la famille des motards. Jusque-là, on n'a pas encore arrêté. On n'a pas encore arrêté notre famille là. On a juste arrêté seulement les motards. Mais là, il faut bien savoir au niveau de l'invité. À ce niveau-là, c'est le motard qui est dans les frères. Or, le motard, lui, il n'a pas tué. Tandis que la famille de la victime, c'est-à-dire l'homme à qui le motard a cogné, est venu allons tabasser la famille des motards. C'est dans la famille des motards où on a tué. Mais j'aimerais un peu savoir, entre ces deux familles, laquelle pourrait être dans les factions?
D'accord, merci. Jadi Malundama, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute, Jadi.
Ah, mais vous dites quoi? C'est vous qui vous m'appelez, non?
Voilà, vous êtes sur Okapi, Jadi. Je comprends que vous n'avez pas de questions, maître, je reviens à vous. Rachel, depuis Siroa, parlait d'un taximen qui a tué quelqu'un et a pris fuite. La police débarque à la maison, on trouve son petit frère, lui n'était pas là, on arrête son petit frère. La police dit qu'il sera libéré seulement lorsque son grand frère va se présenter.
Bon, la police n'a pas totalement raison, en ce que la responsabilité pénale est individuelle, nul ne peut répondre de la responsabilité pénale d'autrui. Mmh. Seulement, l'on peut aller plus loin avec le raisonnement, dire que peut-être la police reprocherait au frère du motard en fuite le recel de malfaiteurs. C'est pourquoi il faut toujours être souple dans l'appréciation de faits. Lorsque vous recelez quelqu'un qui est poursuivi par la justice, vous commettez l'infraction de recel de malfaiteur. En ce moment-là, si on vous arrête, on ne va pas vous arrêter pour le fait de celui que vous avez recelé, mais parce que vous avez personnellement commis l'infraction de cacher celui qui est responsable de l'infraction
qui
est recherché par la justice.
Oui. Voilà. Alors, Lisengé de Fungurume, il parle d'un motard qui a cogné un enfant. L'enfant n'est pas mort, mais la famille de la victime va faire des représailles. On tue le frère du motard et lui-même est en prison.
Bien, les deux familles ont commis des infractions. La famille, le motard a commis une infraction appelée lésion corporelle involontaire. La famille de la personne qui se trouve hospitalisée, en allant tuer quelqu'un dans la famille du motard, cette famille-là commet l'infraction de meurtre. Donc, les deux familles doivent être jugées, chacune selon les faits mis à sa charge. Chacune de famille doit répondre. Mais de toute façon, on parle de famille, mais des individus
qui ont commis
ces actes.
On ne parle pas des familles, on parle de la personne qui a commis l'infraction.
Oui. On va les individualiser, si c'est par coactivité, on va prendre le groupe d'individus qui auront coopéré à la commission des infractions pour qu'ils répondent de leurs actes.
Donc, est-ce qu'on peut dire que la famille de la victime doit subir la peine de mort? Parce qu'ils ont tué le
petit
frère.
Pas la famille, mais ceux qui seront reconnus complices ou coauteurs de cette infraction-là pourront répondre conformément à la loi. Donc, il y a d'une part l'infraction de lésion corporelle involontaire et d'autre part l'infraction de meurtre.
Alors, Maître Kabengela, souvent, même, ça arrive souvent à l'est du pays où quelqu'un vous menace, vous avez peut-être une dette ou un problème, il vous dit, bon, toi, tu fais ça, attends, tu verras. Hein, demain, et peut-être demain plus tard, il y a des bandits qui débarquent chez toi et qui tuent comme ça, des choses comme ça. Alors, si quelqu'un vous lance des menaces, déjà, des menaces de mort, est-ce qu'on peut déjà porter plainte et quelle pourrait être la sanction?
Oui, la loi punit des menaces de mort. Vous pouvez déjà porter plainte. Mais si à la suite de ces menaces, on trouve que vous avez été visité, que la mort s'en est suivie. En ce moment-là, les menaces font partie des éléments de préméditation. C'est-à-dire, l'individu qui menaçait aurait mis ses menaces à exécution. En ce moment-là, on parlera de l'assassinat.
Voilà. Voilà, et si c'est un mineur qui donne la mort à quelqu'un, là, que dit la loi c'est sûr, dans ces cas-là?
Cela dépend. Si le mineur a entre 14 à moins de 18 ans, il sera jugé par le tribunal pour enfants. Il ne subira pas
la
peine de mort. Il sera placé dans un établissement d'internement. Mais si le mineur en question a moins de 14 ans, il est considéré comme totalement irresponsable, comme ayant agi sans discernement. Donc, les mineurs de moins de 14 ans sont irresponsables vis-à-vis de la loi.
Guédon Mwamba nous appelle de Kolwezi, bonjour. Guédon, vous êtes à Kolwezi, bonjour. Il n'est plus en ligne, peut-être qu'il va, il va nous rappeler. Alors, le meurtre, cette infraction est établie. Voilà, en fait, il est en ligne. Guédon, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Guédon, depuis Colosie.
Merci bien. Je voudrais poser une petite question à notre invité. C'est-à-dire, oui. On a commis un petit cas ici chez nous à Colosie. Il y a un monsieur qui avait tué l'autre. Après avoir tué, il avait pris les poudres de tempête. Mais il a fait ailleurs à peu près 8 mois et il est revenu. L'État a mis toujours la main sur lui. Alors j'aimerais savoir, de tel cas, il faut que la personne fasse combien de temps ailleurs pour que l'État oublie des problèmes pareils.
Maître Kabengela.
La prescription par l'écoulement du temps pour l'infraction de meurtre, il faut 10 ans. 10 ans doivent s'écouler pour que l'État puisse oublier les poursuites. Mais si l'homicide est considéré comme un homicide préterintentionnel, c'est-à-dire par imprudence, il suffit qu'une année puisse s'écouler pour que l'État puisse oublier. Donc, si vous tuez par imprudence, la prescription peut être acquise après une année révolue.
Bien. Rigobert, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Daniel, bonjour l'invité. Ma préoccupation réside parce que c'est l'histoire de mon oncle. Hein. Mon oncle travaille dans une entreprise de la place.
Oui.
Il a été convoqué dans un conseil de discipline. C'était au-delà des heures normales, des heures de service. Maintenant, après l'interrogatoire, il a été torturé moralement. Et enfin, pendant que le conseil se passait, l'oncle a trouvé la mort. Maintenant, je voulais savoir.
Il a trouvé la mort comment il a fait une crise. Qu'est-ce qui s'est
passé? Oui, il a fait une crise, il a trouvé la mort.
Oui.
Maintenant, je voulais savoir de tels cas, homicide volontaire ou involontaire. Maintenant, à qui on doit imputer cette responsabilité? C'est celui qui a convoqué le conseil de discipline ou l'entreprise dans laquelle il travaillait.
D'accord,
merci. Merci, je vous remercie.
Merci, Rigobert. Kalumba, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, oui. Ma question est de savoir, s'il y a quelqu'un qui est agressé, maintenant en voulant se défendre, il parvient à tuer l'agresseur. Peux-tu parler du maître dans ce cas-ci?
D'accord. Maître Kabengela.
Pour la première question, il est vraiment, cette question-là est très délicate. Donc,
On les convoque au conseil
pour être interrogé
conseil
et la mort s'ensuit.
Ouais.
Le juge aura un grand travail, et même moi, pour répondre à cette question, je dois me munir de beaucoup de réserves, en ce que il faut examiner maintenant le comportement de ceux qu'il avait convoqués, qu'il interrogeait, sous quelle tension, avec quel but, en dehors des heures de service. Et je pense qu'il n'y a que l'examen médical, l'autopsie, qui puisse déterminer la vraie cause. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les temps d'interrogatoire? Est-ce qu'il
a parlé des tortures morales?
De torture morale. Tout ça, l'autopsie peut déterminer. Et cela va aider. Ici, le juriste donc, n'a plus d'aptitude. Il doit se référer au médecin légiste pour que le médecin légiste détermine la cause fondamentale, la cause principale de la mort.
Si c'était par exemple une crise cardiaque.
Bon,
la personne fait une crise cardiaque.
Dans le procès qui venait de se passer, qui se passe encore, le procès chez Bayer, on a dit que tout le monde est malade. Mais il ne faut pas profiter d'état de maladie d'un individu pour lui causer la mort. Parce que quand vous savez que telle personne est cardiopathe et que vous le placez dans des conditions telles que sa maladie puisse s'aggraver et entraîner la mort, là, vous avez une responsabilité dans la mort qui s'ensuit.
Et comment le prouver? Ça, c'est
alors
ça,
là,
le problème. C'est
les examens médico-légaux qui peuvent le déterminer. Deuxième question, monsieur Jody.
Il voulait aussi savoir qui est responsable, si on doit condamner. Alors, qui sera responsable dans ce cas-là?
Bon, tout ce
que c'est l'entreprise est responsable de l'entreprise ou c'est celui qui a convoqué le conseil
de discipline. C'est très délicat. Le juge doit être mené beaucoup d'investigations pour déterminer les responsabilités.
Voilà. Alors Kalumba, le dernier nous dit quelqu'un est agressé. Alors pour se défendre, il donne la mort. C'était pour sa défense.
Bien. Le juge va examiner le coup qu'il a donné. Il s'est servi de quoi? De toute façon, quand l'individu est agressé. Avec l'agresseur avait des armes, avait quoi en main? Est-ce qu'il était à menu? Alors, comment celui qui riposte, n'est-ce pas, a riposté avec quel instrument. C'est là, le juge maintenant va voir. Si la réponse, la riposte est beaucoup, n'est pas proportionnée à l'attaque, là, on retient la responsabilité entière. Mais alors, le juge, quand bien il y aura meurtre, le juge pourra retenir l'attitude de la victime, l'attitude provocatrice de la victime pour atténuer la peine. Parce que l'infraction est là. Vous avez tué un individu, vous ne pouvez pas être tenu pour irresponsable. Vous allez répondre, mais dans la mesure où l'on considère l'attitude de la victime comme ayant provoqué, c'est votre réaction, on tiendra compte de ça pour atténuer la peine.
Bien, Maître Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Matete, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie, Jody Daniel.
À la prochaine.
Merci. Au capi.